14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Elle voulait soulager les souffrances de ses patients. Ludivine, cette aide-soignante employée dans une maison de retraite de Chambéry, a été mise en examen pour la mort de 6 pensionnaires et la tentative d'empoisonnement de 3 autres personnes. Les victimes n'étaient pas du tout en fin de vie.
Bonjour. Pour la justice et les criminologues, Ludivine Chambé est une tueuse en série. Il suffit pour cela de compter ses crimes. 10 morts entre 2012 et 2013 sur 13 empoisonnements attribués à l'aide-soignante. Une succession impitoyable de meurtres dans un EHPAD tranquille de Chambéry. Quand elle va être arrêtée, la jeune femme va expliquer qu'elle ignorait la dangerosité de ses cocktails de psychotropes. Elle voulait juste soulager les souffrances de personnes âgées mourantes qui lui faisait pitié. L'enquête va lever le voile sur une toute autre réalité, découvrir par exemple que la plupart de ces patients n'étaient pas en fin de vie. Les policiers, les juges, les psychiatres vont se pencher sur le cas de cette suspecte, remonter le cours de son existence, tenter de savoir quels mécanismes ont pu la pousser à commettre le pire. Est-elle démente? Tuée-t-elle par sadisme ou perversion? Quel déclic a fait d'elle une criminelle hors norme? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont l'expert psychiatre qui l'a examiné.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Ludivine Chambé. À l'automne 2013, cette jeune aide-soignante des plus effacées va apparaître comme la seule responsable d'une longue série de morts suspectes dans un EHPAD de Savoie, des empoisonnements à la chaîne. Il y aurait plus d'une dizaine de victimes. Vendredi 29 novembre 2013, le directeur de l'hôpital de Chambéry alerte le procureur de la ville sur une série de faits suspects survenus depuis quelques mois derrière les murs du Césalet, un EHPAD situé à Jacob Belcombette et rattaché au centre hospitalier. Le directeur explique que des résidents présentent des symptômes inexplicables, des absences, de graves malaises, des comas soudains. Certaines de ces personnes sont mortes en quelques heures. Ce jour même, une patiente, 84 ans, Élise Maréchal, a été atteinte des mêmes troubles et a succombé. Impossible de connaître la cause de ces décès, mais un empoisonnement n'est pas à écarter. Dans 4 cas, les analyses ont montré la présence d'un cocktail fatal composé d'au moins 6 psychotropes, antidépresseurs et neuroleptiques. Des produits entreposés dans une armoire fermée mais accessibles aux soignants. L'hôpital dit avoir fait des rapprochements entre les dates des malaises et les plannings du personnel chaque fois qu'un incident est survenu. Il est noté la présence sur place d'une aide-soignante, Ludivine Chambé, 30 ans. La police judiciaire se rend à l'EHPAD. Elle se renseigne discrètement sur Ludivine Chambé, dont le dossier indique qu'elle est bien notée. Elle a obtenu son diplôme d'aide-soignante en 2004. Elle a toujours travaillé à l'hôpital de Chambéry. Tout d'abord en psychogériatrie, au Césalet, puis au service des soins continus. Elle a changé d'affectation en 2012, quand sa mère a été atteinte d'une leucémie incurable. Elle a retrouvé alors sa place au sein de l'EHPAD. Ludivine Chambé est présentée comme une femme souriante, serviable, disponible, même si son caractère est décrit comme changeant, très volubile, puis soudainement renfermé. Elle a parfois été surprise, en train de crier dans les couloirs. La direction avait pensé qu'elle était surmenée. 2 décembre, 4 morts de résidents sont attribués à des empoisonnements. 9 autres cas suspects sont à l'étude. Mardi 10 décembre 2013, les policiers de Chambéry interpellent Ludivine Chambé, chemin des baraques à Châles-les-Eaux. Elle est revenue vivre ici, la maison familiale, quand sa mère Solange est tombée gravement malade. Elle est décédée il y a 5 mois à l'âge de 62 ans. En garde à vue, l'aide-soignante nie tout d'abord les accusations. À propos du dernier décès, celui d'Élise Maréchal, elle affirme que celle-ci avait l'habitude de boire dans les verres des autres. Puis, elle avoue, en comptant sur ses doigts, 3, puis 9 victimes entre mars et novembre 2013. Il n'y en a pas d'autres, affirme-t-elle. J'ai agi ainsi car je voyais qu'ils n'allaient pas bien, qu'ils étaient angoissés. C'était pour les soulager, dit-elle. Elle raconte qu'elle choisissait toujours les mêmes médicaments, précisant qu'elle n'avait aucune idée de leurs effets. Je ne comptais pas les gouttes. En général, je mettais une demi-pipette, raconte l'aide-soignante. Elle assure n'avoir jamais fait le lien entre ses produits administrés et les malaises. Avant de passer à l'acte, elle regardait où étaient ses collègues. Si elle m'avait vu, Elles auraient trouvé ça suspect, reconnaît-elle. Ludivine Chambé ne peut expliquer ses gestes, soulignant qu'elle était alors brisée par le décès de sa mère. La vice-procureure de Chambéry, Dilinde Baudouin, indique « Elle semble affectée par ce qu'elle a fait. Le mot qui revient tout le temps, c'est soulagée. Mais on n'arrive pas à savoir ce qu'elle entend par ce terme. » Et le décompte des résidents empoisonnés à l'EHPAD va monter jusqu'à 13 personnes, dont 10 auraient succombé à cause de ces cocktails toxiques. Enquête qui ne fait que commencer. On va suivre les autres explications de l'aide-soignante et puis ce que vont essayer de comprendre les enquêteurs, la juge, les psys, dans cette étonnante histoire. On va en parler de tout ça dans la suite de l'heure du crime. On revient à l'EHPAD de Chambéry. On est le 10 décembre 2013 avec l'arrestation de l'aide-soignante. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Évidemment, on connaît votre voix sur RTL. Vous êtes notre correspondant RTL dans cette région de Grenoble et bien au-delà, au-delà des Alpes même parfois. Serge Puyot, vous connaissez bien les faits divers et que vous connaissez parfaitement cette histoire. Vous l'avez suivie de A à Z tout de suite. L'arrestation de l'aide-soignante, elle fait les gros titres parce que les victimes, on le pressent presque, elles vont être nombreuses. Les policiers annoncent que rien n'est fini, c'est un décompte fatal qui est amorcé.
Oui, c'est sûr que cette affaire crée un émoi considérable dans la région, à Chambéry, dans toute l'agglomération chambérienne et même au-delà, puisque des pensionnaires viennent de toute la région de Savoie. Et c'est vrai qu'on est dans un EHPAD qui est l'EHPAD du Césalet, qui est un établissement pour personnes âgées dépendantes, mais ce ne sont pas des gens qui sont à l'article de la mort.
Ben oui.
Ce ne sont pas des gens, on n'est pas dans un mouroir, on est effectivement dans un EHPAD où des gens sont âgés mais dépendants. Et donc c'est vrai que la mort de toutes ces personnes, ces employés, ça stupéfait un peu toute la population. On se dit, mais qui est cette personne? Qui est cette aide-soignante qui a pu empoisonner ces personnes âgées?
Ouais. Alors, c'est une aide-soignante très banale, elle est presque effacée, elle a un cursus qui est tout à fait limpide, elle n'a jamais été condamnée, elle donne même satisfaction à cette EHPAD du Césalet. Encore un mot, Serge Puyot, c'est toujours le même cocktail de psychotropes, il n'y a pas de surprise là-dedans, finalement il y a une mécanique qui est banale, on administre toujours les mêmes produits.
Exactement, toujours les mêmes médicaments, pourrait-on dire. Et c'est vrai qu'il y a une répétition dans la volonté d'administrer ces médicaments et avec une issue fatale la plupart du temps, puisque c'est la mort pour 10 personnes empoisonnées. Donc c'est vrai qu'on se dit comment il y a eu une telle détermination à reproduire cette administration de médicaments sur des personnes âgées qui, encore une fois, n'étaient pas sur le point de mourir de par leur état de santé.
Bonjour Daniel Zaguri.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio L'Heure du Crime. Merci beaucoup parce que effectivement cette affaire vous la connaissez bien. Vous avez expertisé Ludivine Chambé. Vous êtes expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Paris, auteur du livre La barbarie des hommes ordinaires, ces criminels qui pourraient être nous, aux éditions de l'Observatoire. Et puis je cite votre dernier livre, Comment on massacre la psychiatrie française, qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Ça c'est un sujet, je le sais, qui vous tient beaucoup à cœur. Alors dans cette histoire, Ludivine Chambé, un mot avec une question un peu plus large. Tout de suite. On est là en milieu hospitalier, on est dans un EHPAD. Normalement, c'est un endroit où on soigne, où on soulage. Et là, c'est tout le contraire qui se produit, c'est la mort qui apparaît, c'est frappant.
Mais évidemment, c'est toute la singularité de cette histoire. Fort heureusement, les médecins, les infirmiers ou les aides-soignants qui tuent, il y en a très peu. Et alors, leur appartenance à la catégorie des tueurs en série, j'imagine que la question va être soulevée.
Bien sûr.
Mais vous avez raison de commencer par ça. C'est une inversion.
C'est ça.
De la vocation soignante.
Et alors là, c'est tout à fait troublant, évidemment, et dans l'opinion, il y a un choc, parce que effectivement, ces personnes, c'est âgé, on les place ici pour qu'elles soient soignées, pour qu'elles soient accompagnées jusqu'à leur dernier souffle, mais c'est pas ça qui s'est produit, puisqu'on a interrompu leur vie avant. Daniel Zaguri, j'ai cité la vice-procureure de Chambéry. Elle dit une phrase, moi, qui m'a beaucoup frappé. Elle dit, moi, Ludivine, elle dit, je voulais les soulager, ces personnes, elles souffraient, j'avais pitié d'elles, elles étaient devant moi, elles étaient dans un état déplorable, même si ce n'est pas vrai. Le mot soulager, on ne sait pas ce qu'elle veut dire, dit la vice-procureure. C'est compliqué.
Je crois qu'elle a mis le doigt exactement sur la complexité de cette affaire. Est-ce que Ludivine Chambé a voulu soulager ces personnes âgées ou est-ce qu'elle a voulu se soulager en face de personnes qui évoquaient de façon très puissante l'agonie et la mort de sa mère. La question est ouverte. Si vous voulez, là, on cherche toujours une phrase qui viendrait tout expliquer, quelque chose qui serait rationnel. Or là, on est, et la procureure a mis le doigt dessus de façon tout à fait...
Et très rapidement, hein, dès le début. Elle...
Oui, mais c'est tout à fait juste. Est-ce que c'est un, ce que ce sont des crimes, alors là, je fais très attention à ce que je dis, mais sous-tendu par, je dirais, l'amour de sa mère, ou sous-tendu par la haine de cette femme qui l'a fait naître comme ça.
Et, on va en parler évidemment de la situation de Ludivine.
Et qui ensuite l'a étouffée de sa surprotection. Est-ce qu'il s'agit d'un crime d'égoïsme ou d'altruisme qui se donne cet alibi? Est-ce qu'il s'agit de les soulager ou de se soulager? Voilà, c'est ça, si vous voulez, le nœud de l'affaire.
Oui, et alors c'est le nœud de l'affaire, et tout de suite, la vice-procureure, les enquêteurs, ils perçoivent qu'il y a quelque chose d'un peu irrationnel qui leur échappe, hein. Ce ne sont pas des crimes ordinaires. Serge Pueyot, bah justement, qui est-elle, Ludivine Chambé? Je disais, elle est bien notée, elle était plutôt discrète, cette femme, mais elle souffre beaucoup, elle a été malade depuis sa toute petite enfance.
Oui, exactement. Ludivine Chambé, elle est née prématurée. Elle a eu une maladie génétique rare également qui a impliqué des opérations lourdes dans sa jeunesse. Et donc, elle a été très tôt confrontée à la maladie. Elle est complexée par sa taille. Elle est de grande taille. Elle a quelques séquelles physiques suite à ses problèmes de santé. Et elle a donc un gros complexe vis-à-vis, effectivement, de son physique. Donc, elle est un peu mal dans sa peau. Mais effectivement, elle est présentée comme quelqu'un qui fait bien son travail au niveau de l'EHPAD, en tout cas en apparence. Il n'y a pas de soupçon au départ sur cette personne. Et surtout, elle est très affectée par le décès de sa mère.
C'est voilà, ça. C'est la mort de sa mère, ça va être central dans cette affaire, hein, Serge. C'est effectivement, dès le début, elle le dit un petit peu et les témoignages vont dans ce sens. Hein.
C'est ça, parce qu'elle a une relation fusionnelle avec sa mère. Mmh. Et sa mère donc, est atteinte d'une leucémie aiguë. Et en 2013, elle va décéder à l'issue d'une longue agonie. Et donc, effectivement, Ludivine Chambé a été très affectée par la perte de sa maman dans ces conditions. Et donc, à partir de là, elle dit qu'elle ne supportait pas ou plus de voir les gens souffrir, faisant allusion, effectivement, à la fin de sa mère avec cette leucémie. Et donc, elle transpose ça, effectivement, sur d'autres personnes, des patients, en l'occurrence.
Alors, en tout cas, c'est une thèse. C'est pas forcément celle-là qui va prévaloir, mais elle pourrait transposer, effectivement, cette douleur sur ses patients. Des crimes causés par une profonde dépression ou bien réfléchis et prémédités? Jeudi 12 décembre 2013, Ludivine Chambé est incarcérée. Ses proches, dont son père, un ancien boucher, 67 ans, ne parviennent pas à comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de la jeune femme. Son oncle Bernard confie « C'était pas quelqu'un de méchant. Je ne pense pas qu'elle aurait fait ça pour leur faire du mal. » Aux enquêteurs, tous les proches évoquent la relation fusionnelle que Ludivine entretenait avec sa mère. Depuis sa mort, elle était dans une grande souffrance, une grande solitude. Elle ne cessait d'en parler, explique l'un d'eux. Le portrait est encore fait d'une jeune femme qui ne s'aime pas, complexée par son physique, 1m83 pour près de 100 kilos et atteinte d'une maladie rare, le syndrome de Widermann-Beckwith, qui déforme son corps. Depuis l'enfance, elle n'a cessé de subir des moqueries. Lors de l'instruction, elle explique ses agissements par l'état second dans lequel elle vivait à l'époque. Elle rendait tous les jours visite à sa mère malade, alors qu'elle continuait à travailler. « Après le décès de ma mère, je n'étais plus connectée à la réalité », déclare-t-elle. Les policiers collectent des éléments qui vont dans le sens d'une sombre détermination et peut-être de la préméditation. L'ordinateur de Ludivine Chambé est inspecté. Le 27 mai 2013, à 8h51, elle a tapé dans le moteur de recherche Google « Comment tuer une personne ?» 25 août, 13h41, cette fois, la recherche est « Provoquer un AVC ». À 13h42, elle écrit cette phrase « Association Tertian Loxapac » Rivotril, soit deux neuroleptiques et un antiépileptique. 27 octobre, elle recherche médicaments provoqués infarctus. 28 octobre, 12h12, il est mentionné tuer un homme. 12h13, tertian en forte dose. 12h20, chocolat, lait pour empoisonner un chien. Ludivine Chambé dit ne plus se souvenir de ses recherches. Les enquêteurs établissent encore que la plupart des victimes n'étaient pas en fin de vie ou plongées dans des souffrances insupportables. Alice Miège, 92 ans, commençait certes à souffrir d'Alzheimer, mais elle n'était ni confuse ni suicidaire. Les fils de Simone Canfin, 85 ans, décrivent le brusque coma de leur mère. Ils se souviennent que Ludivine Chambé leur a alors couru après en leur demandant comment habiller la résidente si elle décédait. Pour Anne Marcillac, 88 ans, il est établi qu'elle n'avait jamais demandé à mourir. Elle ne présentait aucune pathologie susceptible d'entraîner un malaise et une mort aussi précipitée. Je voyais bien que je portais la poisse. Certains collègues m'avaient dit que les patients m'attendaient pour mourir, indique l'aide-soignante, mais elle a continué. Ludivine Chambé ne manque aucune séquence chez le psychiatre de la prison de Bonneville, en Haute-Savoie, où elle est incarcérée. À la bibliothèque, elle a emprunté un livre sur les relations mère-fille. Elle recherche à comprendre son geste et c'est un long travail, indique au journal Le Parisien maître Ségolène Franc, qui la défend avec maître Thomas Bidnick. L'avocate ajoute que l'aide-soignante a hâte de comparaître et de s'adresser aux familles, mais elle n'aura à offrir que ce qu'elle a découvert d'elle-même. Et on va voir à ce procès de cour d'assises qui va arriver, ce que l'aide-soignante va pouvoir donner pour explication, quel visage va-t-elle montrer et quel sera le contenu du volet psychiatrique, car il est capital dans ce dossier. C'est à suivre dans le prochain chapitre de l'émission. Serge Peillot, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes notre correspondant RTL dans la région de Grenoble. Alors, il y a eu cette garde à vue, il y a de nombreuses auditions. La juge pose et repose les mêmes questions à Ludivine Chambé, mais elle a du mal à donner la véritable raison de ses gestes criminels. Tout ça est très hésitant et flou, Serge.
Oui, c'est flou, effectivement. Elle répète en boucle que c'est pour soulager les pensionnaires de l'EHPAD qu'elle a administré ces cocktails de médicaments. Et devant la police, eh bien, elle n'est pas impressionnée lors de son arrestation. Elle est très combative. Mmh. Elle explique calmement, avec des réponses très précises, racontera plus tard le chef des enquêteurs, que effectivement, elle a voulu, non pas attenter à la vie de ses patients, mais elle a voulu les soulager. Elle le répète, à mes yeux, ce que je voyais, c'était des victimes très tristes. Mais peut-être, commence-t-elle à amorcer, peut-être que c'est moi qui n'allais pas bien. Ouais. Donc voilà, elle se pose des questions au fil des interrogatoires, mais en tout cas, au départ, elle assume toujours avoir voulu, dit-elle, soulager ses patients.
Et c'est important ce que vous dites, Serge Peillot, parce que c'est presque paradoxal. On a cette femme qui paraît effacée, presque timide, un peu enfantine, et face aux policiers, elle est plutôt solide et elle lâche même rien au début.
Oui, au début, elle lâche rien, puis après, au fil des interrogatoires, elle livre les noms des médicaments qu'elle a administrés, elle donne même les noms des victimes, elle assume quand même une grande partie de ses actes, mais effectivement, elle réfute avoir tué intentionnellement ces personnes âgées.
Daniel Zaguri, expert psychiatre, et vous avez expertisé à l'époque cette aide-soignante, alors j'ai deux questions pour vous. Tout d'abord, on en revient toujours avec elle, dans ses propos, à l'amour fusionnel qu'elle a avec sa mère. Elle explique tout par ça. Elle dit c'est le déclic. J'étais plus moi-même, j'étais dans une bulle, en quelque sorte.
Alors, toute la difficulté, c'est que là, on n'est pas avec une névrosée qui aurait un conflit interne et qui serait capable d'évoquer ses oscillations. On n'est pas non plus devant une psychotique qui délirerait et donnerait un mobile. On est un mobile délirant, bien sûr. Et on est devant ce que j'appelle la clinique du clivage. C'est-à-dire que, par exemple, elle a fait des recherches sur Internet, comment tuer, etc.
C'est accablant. Et
mettez-vous à la place des policiers, ils ont l'impression, des enquêteurs, ils ont l'impression qu'elle les mène en bateau. En réalité, il y a deux espaces psychiques. Alors, je m'empresse de dire que c'est pas une cause d'irresponsabilité pénale. C'est un éclairage psychodynamique. Donc, il y a un espace dans lequel quelque chose se joue d'une destructivité dont elle ne peut pas parler. Elle n'a pas de mots pour dire ça.
Elle ne sait pas pourquoi elle a tué, c'est ça ?
Elle ne sait pas pourquoi. Si on lui pose des questions précises et qu'on la pousse dans ses retranchements, elle sait comment. où elle peut dire comment, mais pourquoi.
Elle dit comment, mais pas pourquoi. Et ça, c'est
voilà.
Important.
Oui, elle dit pas pourquoi, parce que le pourquoi, si vous voulez, il est toujours à double polarité.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
que c'est tout et son contraire. Mmh. C'est l'amour et c'est la haine.
Oui, et c'est ça. Et puis elle a
la protection et la destruction.
Elle a vu sa mère mourir de cette leucémie qui a été longue et douloureuse, et puis finalement foudroyante. Elle n'a pu rien faire. Et là, elle est face à des personnes qui sont âgées, mais qui sont toujours vivantes. Elle peut aussi se dire, mais pourquoi vous vivez ? Ma mère est morte, après tout, vous ne le méritez pas.
Alors,
il peut y avoir ce discours dans cette...
Absolument, vie. Absolument. Il pourrait y avoir une vengeance, quelque chose comme ça, une injustice à réparer, puisque sa mère meurt et pas ces personnes âgées dont l'existence est très ténue.
Mm-hmm.
Mais attention, hein, pas en fin de vie. Là c'est un point.
Et oui.
Donc, si vous voulez, l'alibi de l'euthanasie,
il tient pas.
Il est totalement irrationnel, il ne tient pas.
Il ne tient pas. Serge Pueyo, on vient d'en parler avec Daniel Zaguri sur ses messages, ses recherches, pardon, qu'elle fait sur Internet et tout. Ça, là, la police, elle tique là-dessus, parce que les recherches, elles sont très précises. Comment tuer ?
Oui, exactement. Pour la police, les choses sont claires. Pour les enquêteurs, il n'y a aucune ambiguïté. Ludivine Chambé voulait tuer ces personnes et non pas les soulager ponctuellement avec quelques médicaments ou un cocktail de médicaments. Pour les enquêteurs, les choses sont claires. La volonté de Ludivine Chambé était de tuer, pas d'apaiser. Voilà les mots du responsable des enquêteurs de la police. Donc, pour les policiers, effectivement, le côté euthanasie, ça ne peut pas tenir. Le côté apaisé des personnes qui sont à l'article de la mort, ça ne tient pas pour la police.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont une vision très pragmatique, mais c'est normal. Ce sont des policiers, des enquêteurs. Ils ont besoin de réponses à leurs questions. Un petit mot avec vous, Daniel Zaguri. Elle dit « Je voyais que je portais la poisse ». On a presque envie de sourire, parce que, évidemment, je portais la poisse. Elle voyait ces personnes mourir, mais elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait.
Alors...
ou bien elle ment.
Toute sa vie, elle a eu la poisse. Hein. Elle a eu une maladie génétique. Elle en a souffert. Elle a été moquée à l'école. Elle avait un physique très particulier, avec une très grande taille, une forte corpulence. Elle a été opérée parce qu'elle avait une très grosse langue, etc.
Oui, donc ça, tout ça a pesé, effectivement, sans doute, sur sa décision et sa trajectoire. 3 ans et demi après son arrestation, l'aide-soignante va être jugée.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Elle n'est pas le mal absolu, parce que les actes qu'elle a commis ont été commis dans la douleur. Ludivine Chambé, il lui est arrivé un malheur, et ce malheur, elle ne l'a pas supporté. Bien sûr que lorsqu'on perd sa mère, bien sûr que lorsque sa mère souffre pendant un an, on ne devient pas nécessairement un criminel. C'est pas une raison pour ne pas se pencher sur ce qui s'est passé.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Ludivine Chambé. En décembre 2013, cette aide-soignante a été arrêtée pour une longue série d'empoisonnements dans un EHPAD à Chambéry. 3 ans et demi plus tard, elle est jugée pour 13 empoisonnements et les morts de 10 personnes. Mardi 9 mai 2017, Ludivine Chambé, qui aura 34 ans le lendemain, comparée devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry. Habillée en noir, portant de longs cheveux noirs, elle affiche un visage pâle. Son regard aux aguets balaie la salle de gauche à droite. Tout le monde est surpris par la voix de petite fille de cette femme, plus grande que les 3 gendarmes qui l'entourent. Impossible, les mains croisées sur les cuisses. Elle écoute les histoires de ses 13 victimes, puis son propre curriculum défile. Sa maladie et les malformations de son corps, sa mère qui l'a promenée cachée dans une poussette. Ma maman m'a surprotégée, couvée, elle ne m'a pas laissé grandir correctement, elle ne m'a pas aidé à couper le cordon, à prendre mon envol, dit-elle. Au fil des jours, les témoins défilent. Le capitaine Olivier Sotti, chef du groupe criminel à la PJ de Chambéry, livre un portrait sans concession de l'accusée. Son mode opératoire a évolué dans le temps. Au début, elle donnait des doses plus faibles, puis elle a augmenté parce que, selon moi, elle ne voulait pas soulager les victimes comme elle le prétend, mais elle avait bien la volonté de les tuer, affirme le policier. Mercredi 17 mai, la présidente fait défiler la liste des recherches internet de Ludivine Chambé avec le fameux « empoisonner un homme ». Je suis abasourdi de voir tous ces mots, je ne m'en souviens pas, c'est le trou noir complet, dit-elle. L'avocat général lui fait remarquer que quand c'est la méchante Ludivine, il n'y a pas de souvenir. Quand c'est la gentille Ludivine, ah alors là, la mémoire revient. Réponse de l'accusé, on pourrait qualifier ça comme ça, son avocat, maître Thomas Bidnik, la questionne aussi. Êtes-vous responsable de la méchante Ludivine ? Réponse, je ne la contrôle pas. L'aide-soignante va ajouter, les deux Ludivines ne font qu'une personne, c'est moi. Et ce sont là les premiers jours du procès, on va voir la suite, et puis on va voir ce que va être le verdict des jurés. Serge Peillot, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble et dans la région, alors vous la connaissez parfaitement cette affaire, je le disais au début, vous l'avez suivi de A à Z, vous étiez à ce procès. On a le sentiment que Ludivine Chambé, à ses audiences, tout au moins au début, elle apparaît comme une forteresse, il n'y a pas de fissure chez elle, elle est impassible.
Oui, elle a du mal à s'expliquer, c'est clair. Donc, vous l'avez dit, elle a un timbre de voix enfantin. Ça surprend par rapport à son physique. Elle déclare tout de suite d'entrée lors du procès. J'espère que ce procès va pouvoir faire avancer les choses et répondre aux questions des familles. Voilà ce qu'elle déclare lorsque le président lui donne la parole d'entrée. Mais effectivement, au fil des débats, eh bien, on a du mal à entendre ses explications puisqu'elle n'en a pas vraiment. Elle se définit comme gentille, serviable, elle dit qu'elle est à l'écoute des autres, donc voilà, elle se valorise par rapport à sa personnalité d'aide-soignante, mais lorsque on entre dans le vif du sujet, si je puis dire, par rapport à ces empoisonnements, eh bien, il n'y a plus personne.
Oui, c'est ça, elle se ferme, mais alors ça, encore juste un petit mot, Serge, pour les familles, c'est épouvantable, parce que les parties civiles, elles sont là, toutes ces familles de vieilles dames et de vieux messieurs qui ont payé de leur vie d'avoir rencontré Ludivine Chambé, et pour elles, c'est l'incompréhension la plus totale.
Ah oui, pour ces familles, il y a une criminelle dans le box, rien d'autre. Elle a commis des actes horribles, c'est ce que répètent en boucle plusieurs familles en disant qu'elle n'a pas d'excuses, qu'elle a agi froidement, qu'elle a tué des gens et que ses explications de soulager ces personnes âgées ne tiennent pas la route.
Daniel Zaguri, expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Paris, vous en avez vu des criminels, vous en avez couvert des procès, vous y êtes à ce procès puisque vous avez expertisé Ludivine Chambé, donc vous allez être cité comme témoin, vous allez venir raconter ce que vous pensez d'elle. Alors, il y a quelque chose de très frappant, c'est ce passage du procès, la méchante et la gentille Ludivine. Et puis elle dit, ben moi je suis un peu la méchante et puis je suis aussi un peu la gentille. Je traduis ses propos, mais c'est à peu près ça, non ?
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce manichéisme, cette espèce de dichotomie, comme ça, assez surprenante entre gentil et méchant, qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette clinique du clivage et à cette part d'elle-même qu'elle ignore totalement. Elle ne connaît pas cette destructivité dont on peut penser raisonnablement qu'elle a joué. Évidemment,
un rôle
dans ses agirs. Donc, il y a quelque chose qui se joue dans ses crimes qu'elle ne veut surtout pas voir, qui relève de sa destructivité. Peut-être, c'est une hypothèse, de la haine de cette mère qui ne l'a pas laissée acquérir une autonomie, mais elle est tellement dans la fusion, elle est tellement dans l'amour de sa mère, elle est tellement dans la dépendance
qu'elle est incapable de s'occuper d'elle.
Que c'est quelque chose qui est tout à fait irreprésentable pour elle. Donc, dans cette histoire de gentille et méchante, il y a aussi quelque chose chez elle de ce manichéisme dont je parlais, mais d'un certain puérilisme. Cette grande femme là, d'1m83, de forte corpulence, elle parle de papa, elle parle de maman.
Avec une petite voix.
Elle s'exprime avec une petite voix.
Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est tout à fait frappant et étonnant comme attitude. Procès qui se poursuit avec cette question. Est-elle une vraie tueuse en série ? Les trois experts psychiatres appelés à témoigner devant la cour sont unanimes. Ludivine Chambé n'est atteinte d'aucune maladie mentale, ni psychotique, ni psychopathe. À la question de savoir si l'accusée est une tueuse en série, le docteur Patrick Blacher répond qu'il s'agit d'une catégorie rare. Je n'ai vu qu'une dizaine de cas de plus de 3 meurtres en plus de 1000 expertises, dit-il. Le docteur préfère assimiler le cas Chambé à une pyromane ou à une incendiaire, sauf qu'il s'agissait ici d'êtres humains, précise-t-il. Le docteur Daniel Zaguri, qui a expertisé plusieurs tueurs en série, assure que l'accusé n'appartient pas à cette catégorie, même si ses actes sont une série de crimes. Face à une telle personnalité complexe, les experts reconnaissent qu'ils en sont réduits à émettre des hypothèses. Il est vain de vouloir fournir une logique claire du passage à l'acte, estime Daniel Zaguri. Mardi 23 mai 2017, l'avocat général indique « Ludivine Chambet est une tueuse qui a agi avec détermination pour des motifs obscurs. Ses actes sont totalement monstrueux. Il réclame 30 ans de prison. L'accusé est condamné à 25 ans avec 10 ans d'obligation de soins. Ludivine Chambet ne bronche pas. Son visage ne marque aucune émotion particulière. La seule fois où ses yeux se seront embués, c'est lorsque la fille d'une des victimes était venue témoigner. » Tourne vers Daniel Zaguri. Il y a une question qui me trotte dans la tête. Vous dites, c'est pas une tueuse en série. Alors moi, si je fais le compte, il y a quand même 10 personnes mortes. Ça, c'est une tueuse en série.
Alors, il faut savoir de quoi on parle. Si on s'attache à une définition policière, descriptive, oui, c'est une tueuse en série. Elle a tué plus de
juridiquement,
personnes.
Juridiquement, oui, c'est ça.
Oui, on va dire policièrement plutôt, parce que bon, c'est pas...
Criminologiquement,
voilà. Et oui, alors à ce moment-là, c'est une tueuse en série. Mais on ne retrouve pas chez elle les caractéristiques que moi j'ai pu observer et décrire chez un certain nombre de tueurs en série, dont je m'empresse de dire qu'ils sont tous très différents les uns des autres.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un tueur en série ?
Alors, ce que l'on repère le plus souvent, c'est une indifférence absolue à l'égard des victimes qui sont chosifiées, qui sont neutralisées. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Il n'y a pas de jouissance de toute puissance. Il n'y a pas, c'est pas à ce niveau-là que se jouent les actes.
Elle n'est pas sadique, c'est ça que vous voulez dire.
Il n'y a pas de perversion perceptible. Elle ne met pas l'interlocuteur mal à l'aise. Alors, mal à l'aise, l'interlocuteur l'est nécessairement compte tenu de la gravité des faits. Mais dans l'interaction, dans l'échange, elle ne nous met pas mal à l'aise. Et surtout, on ne retrouve pas chez elle ce que j'ai décrit chez la plupart des tueurs en série, c'est-à-dire un tripôle avec une dimension psychopathique qu'on ne retrouve pas du tout chez elle.
Donc elle n'est pas psychopathe.
Un registre pervers, à ma connaissance, on ne retrouve pas chez elle, et une angoisse sous-jacente, par contre, et une angoisse sous-jacente de registre archaïque. Par contre, ce clivage dont j'ai parlé, il est bien là, entre une Ludivine trop gentille, j'ai envie de dire, qui ignore le conflit, l'agressivité, et une part de
d'elle.
Destructivité à elle-même, ignorée d'elle-même.
Mais c'est ça, et qui semble lui échapper, en tout cas, c'est ce que vous avez perçu, vous, en étudiant ce cas. Serge Puyot, on vous retrouve, correspondant RTL à Grenoble, et vous étiez à ce procès. Je le disais, 25 ans, c'est une peine, c'est beaucoup, évidemment, 25 ans de prison, mais c'est une peine qui fait l'unanimité. Elle aurait pu avoir 30 ans, Ludivine Chambet.
Oui, c'est vrai que la peine aurait pu être encore plus lourde, mais c'est vrai que les familles sont quand même satisfaites de cette peine. Elles voulaient qu'elle soit reconnue comme une criminelle, c'est ce qu'elle a effectivement été, puisqu'au final, elle prend 25 ans de réclusion criminelle.
Tout à fait.
Et donc, Ludivine Chambet joue jusqu'au bout à essayer de minimiser son action, de s'excuser auprès des familles. Il faut savoir qu'en détention, elle a eu l'occasion de se confesser, de demander pardon à Dieu, d'avoir effectué ses actes affreux. Et donc, elle n'a cessé, sur la fin du procès, de demander pardon aux familles. Avec, c'est vrai, un peu sur l'insistance de son avocat, ça sonnait parfois un peu faux pour les familles. Et au final, effectivement, le verdict est tombé.
Ouais, c'est-à-dire 25 ans. Juste un petit mot, Serge Puyot, on n'a pas compris pourquoi elle avait fait ça. Alors, on en a parlé avec Daniel Zaguri, mais là, les familles, elles n'ont pas compris.
Non, personne n'a compris. Je ne sais pas si Ludivine Chambet elle-même a compris. Elle a répété qu'elle avait été déconnectée de la réalité, qu'elle avait cette personnalité qui lui demandait de faire ce qu'elle a fait. Elle parle d'une double Ludivine, on l'a dit. Et donc, effectivement, il reste un mystère sur cette femme qui a quand même tué 10 personnes.
L'aide-soignante prend sans un mot le chemin de la prison. Lors de son procès, Ludivine Chambet avait eu ces quelques mots pour les familles. « Je suis coupable de crime, je voudrais ajouter aussi que je suis sincère et je comprends que l'on ne puisse pas me pardonner. Mais je demande encore une fois pardon aux familles des victimes. » Des familles qui, à l'audience, n'ont pour la plupart jamais cru aux explications de Ludivine Chambet, incrédule et condamnée, elle, à une profonde tristesse.
J'aurais préféré qu'elle reconnaisse qu'elle avait tué, même si elle n'avait pas eu l'intention au départ. Mais les premières, d'accord, mais après, Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a beau dire « je suis une deuxième personne, je ne sais pas ce que je faisais ». Non, c'est pas possible. C'est une meurtrière en série pour moi.
La voix de Colette Pillet, la fille d'Anne-Marie Marcillac, morte à 88 ans. Serge Puyot, on vous retrouve dans cette heure du crime. C'est vous qui avez réalisé ces interviews lors du procès, puis à la fin de ce procès, après le verdict. Il n'y a pas eu de procès en appel, et puis pourquoi est-ce qu'on le sait? Il aurait pu y avoir un deuxième procès d'assises.
Je crois qu'effectivement, Ludivine Chambé, elle aussi voulait tourner la page. C'était extrêmement difficile à vivre, cette histoire. Et pour les familles également, c'était compliqué. Et donc, elle a préféré en rester là, si l'on peut dire, avec son avocat. Mmh. Et donc, elle n'a pas fait appel.
Elle est toujours en prison, aujourd'hui même?
Elle est toujours actuellement en prison, effectivement. Elle continue à purger sa peine.
Mmh. Daniel Zaguri, je posais la question dans le chapitre précédent à Serge Puyot. En disant « personne n'a rien compris à ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça ». C'est une question terrifiante, personne n'a rien compris.
Mais c'est pas vrai. Et rien ne m'attriste plus, vous savez, quand à la fin d'une chronique judiciaire, alors que vous avez fait une expertise, vous avez passé de longues heures à essayer d'expliquer, de comprendre d'abord,
oui,
et ensuite de rendre compte. La dernière phrase, c'est « l'expert n'a pas permis de percer le mystère ». Eh bien, pourquoi? Parce qu'on voudrait une cause coupable. On voudrait quelque chose de simple. C'est l'intérêt, c'est la passion, c'est la lubricité, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la vengeance. Donc, et quand on tient comme ça, quand on veut épingler une cause, on est content. Alors qu'en réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que les crimes de Ludivine Chambé entretiennent un lien complexe, certes, mais un lien avec sa relation à sa mère.
Ouais.
Et que donc, tout est, si vous voulez, dans ce lien. Et je ne dirais pas qu'on n'a pas compris. Mmh. Je dirais plutôt que ce que l'on a compris ne se résume pas en une phrase élémentaire.
Alors on est d'accord. Il faut de toute façon, Daniel Zaguri, regarder cette histoire à travers le prisme de son enfance et de sa mère. Hein, c'est ce que vous nous dites. Sans ce prisme, il y a zéro explication.
Sans ce prisme, il y a zéro éclairage, effectivement. Donc, il faut en revenir à l'intuition de la procureure. Elle s'est à la fois soulagée et elle a eu l'alibi de soulager.
Oui, et ça,
de quelque chose dans lequel elle était prise et dont elle n'avait aucune explication claire.
Serge Puyot, vous l'avez suivi ce procès, vous avez suivi cette affaire. Est-ce qu'il y a eu une évolution chez Ludivine Chambé dans son attitude, dans ses paroles, dans ses gestes?
Pas trop. Elle est restée égale tout au long du procès, en ayant du mal à s'expliquer. Elle a essayé de le faire sous les coups de boutoir des avocats des parties civiles, mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'elle a fait. Elle a persisté à dire qu'elle voulait soulager ces personnes et donc qu'elle voulait ne plus voir cette souffrance vis-à-vis de ces pensionnaires, alors que ce n'était pas le cas, on l'a dit, hein, ces gens n'étaient pas prêts de mourir, mais pourtant elle leur a donné la mort.
Est-ce que vous avez perçu, Serge, alors c'est difficile, mais ces deux visages de cet accusé, de cette femme, est-ce que cette femme qui a une toute petite voix et à qui on reproche des crimes épouvantables?
Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste très particulier entre cette Ludivine Chambé qui veut se faire passer quasiment pour une victime et puis cette Ludivine Chambé qui a donné la mort. Et il y a une image qui m'a touché lors du procès. Une personne m'a expliqué, un témoin en tout cas, l'a dit à la barre, qu'il lui est arrivé, Ludivine Chambé, de venir à l'EHPAD avec son accordéon pour faire chanter la maison de retraite les jours de fête. C'est complètement paradoxal, donner la mort à 10 personnes et ensuite, effectivement, venir avec son accordéon pour jouer et effectivement faire plaisir à ces personnes âgées.
Ça, c'est une anecdote absolument extraordinaire. Daniel Zaguri, je vais terminer cette émission avec vous, il nous reste une minute. Il y a cet accordéon qu'elle fait emmener à l'EHPAD, parce qu'il faut que tout le monde soit heureux alors qu'elle est en train de commettre le pire.
Mais nous voudrions avoir des représentations simples de ce qui commettent des actes horribles. Pourquoi enlever à Ludivine Chambet aussi une grande part de sa personnalité, ouais, qui était dans le souci de l'altruisme,
de soigner,
et dans le, comment dire, la vocation de soigner. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça, et que cette d'autres parties, en relation avec tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être destructeur dans les sentiments, était bien présente, mais malheureusement trop inconnue d'elle et dont elle ne pouvait rien faire psychiquement.
La méchante et la gentille, hein, on en revient toujours un petit peu à ça, même si c'est caricatural, mais c'était au procès, ces deux qualificatifs n'ont cessé d'apparaître et de réapparaître. Merci beaucoup Daniel Zaguri et Serge Pueyo d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveaux.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.